23 septembre 2011, vous écoutez La vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette deuxième édition donc, de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous, un plaisir de vous retrouver pour une deuxième semaine à bord de ce magazine entièrement dédié à l'univers de la bande dessinée, de l'illustration, de l'animation, du fanzine. Et un très, très beau magazine pour cette deuxième édition. On va aller lorgner passablement du côté de la science-fiction. Cette semaine, deux rencontres d'auteurs qui flirtent avec cet univers, chacun à leur façon. L'un de manière peut-être un peu plus humoristique, avec l'Académie des chasseurs de primes. On recevra le scénariste et dessinateur Benoît Godbout pour nous parler du tome 2.5 de cette série qui s'appelle En vacances. Ça donne le ton, c'est entre le 2 et le 3, et c'est les vacances d'été des académiciens. Des chasseurs de primes, bien entendu, on ne parle pas d'autres types d'académiciens qu'on connaît peut-être un peu plus via notamment cette merveilleuse convergence médiatique qu'on a ici en province. Et l'autre auteur de science-fiction qu'on rencontrera en première partie, il s'agit de JF. JF qui nous avait habitués à beaucoup de séries, à des univers fantastiques, notamment avec le Crépuscule des dieux. Il nous est arrivé cet été avec une nouvelle série qui s'appelle White Crows. On vous en avait parlé un peu la semaine dernière. On avait bien aimé ce premier opus, ce premier volume. Et on aura l'occasion d'en parler avec l'auteur tout à l'heure. Il y aura également Pascal Roux qui sera de passage pour sa chronique consacrée à l'univers des mangas. Elle va nous présenter cette semaine la série Ikigami, une série qui connaît un gros succès au Japon. Il y a un film même qui est en préparation, qui est fait. Enfin, on le saura en fin d'émission avec Pascal. Et tout à l'heure, on va discuter avec Sam Murdock. Petit regard sur l'univers de la BD américaine et anglophone. On va parler des 52 numéro 1 de DC Comics. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui. Et en musique, pour nous accompagner au fil de cette heure, notre sélection de la semaine, c'est un DJ de Québec qui donne également dans la création autant que dans le mix. Et des rythmes électroniques, bien entendu. Un petit côté house qui n'est pas déplaisant. Alors, quelques rythmes électroniques de Saul B pour nous accompagner jusqu'à 18h30. Un petit extrait donc de Saul B avec une pièce qui s'appelle Nakoid. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur cet interprète-là, ben en fait, il y a son site saulb.com avec un petit tiret. On a mis également l'information sur le blog de l'émission. Donc vous pourrez facilement le retrouver là sur le blog de l'émission que vous trouvez d'ailleurs à l'adresse lavieenbd.wordpress.com. Et notamment une autre belle raison d'aller faire un tour sur le blog. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes des fans de Guy Delisle. Eh bien, il y a le journal Le Monde qui offre en pré-publication le prochain opus de M. Delisle dans sa série de récits de voyage qui sont extrêmement intéressants. intéressant. J'ai lu le premier chapitre, ça donne envie de lire le reste du livre. Alors, les chroniques de Jérusalem qui sont disponibles en prépublication, le lien est sur le blog de la vie en BD. Alors, cela étant dit, on accueille maintenant notre collaborateur Sam Murdoch. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Ça va très, très bien. C'est la première fois de la saison, première fois de l'automne, première fois qu'on se retrouve ensemble.
C'est une première fois. En fait, c'est comme dans la série qu'il y avait à la télé, les premières fois, mais ça pourrait être un épisode.
C'est la vraie première fois.
Exactement. Après,
je vais faire ma voix radio pour toi.
Merci. Et Sam, qui est libraire à première issue, oui. Et à qui on a donné le mandat de nous accompagner un peu dans une exploration de la BD anglophone, de la BD américaine. Et cette semaine, Sam en fait une grosse sortie, 52 numéro 1, donc de DC Comics.
DC Comics, non, puis en plus, on va découvrir ensemble à travers l'année. Moi, j'ai été engagé en tant que libraire à première issue parce que je connais tout ce qui est indépendant de la bande dessinée américaine. Puis, tranquillement, je me suis mis au comic book américain un peu plus. À l'époque, j'ai toujours lu, moi, par passion, je lisais étant enfant comme un enfant, puis je lis encore comme un enfant. Moi, je regarde la couverture. J'avais à l'époque le numéro 701 de Batman. Le prochain que j'avais, c'est le 726. Donc, c'était difficile d'avoir une espèce de continuité. DC Comics, qui est la deuxième plus gros publisher de comic book aux États-Unis après Marvel. Donc, ils sont quand même immenses. Cette année, qui célébrait leur 75e anniversaire. Donc, c'est comme 75 ans. Puis souvent, les gens connaissent comme ma sœur. Moi, mon espèce de baromètre, c'est ma sœur. Elle connaît Batman. Elle connaît Superman. Elle a vu les films. Sauf que derrière les films, qui sont quand même assez récents, il y a 75 ans d'histoire.
Et ça fait des mythologies qui sont quand même immenses. Là. Et je veux dire, à un moment donné, j'imagine que les créateurs se disent « Bon, il faudra recommencer la mythologie à zéro. »
C'est toujours re-raconter l'origine, la mort, la remort, la renaissance. Puis ça vend toujours un peu beaucoup. Puis, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire cet automne, encore plus audacieux que d'habitude, c'est de recommencer la numérotation au numéro 1.
Mais de toutes les séries.
52 séries.
Ça fait de la nouvelle mythologie, là.
Puis ça vaut quand même la peine. En plus, ça vaut quand même la peine d'aller voir sur Wikipédia. T'as comme des pages et des pages de qu'est-ce qui est arrivé Batman. Tu sais, les gens connaissent Batman, mais ils connaissent pas son fils, Damian Wayne. Ils connaissent pas Tim Drake, nécessairement.
Ou Barbara Gordon, Batgirl.
Non, il y a quand même une grosse équipe. Mais présentement, donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est 52 numéro 1, 13 numéros par semaine pendant un mois. Ce qui fait quand même beaucoup de lectures. Si tout le monde veut les suivre, ils vont sortir dans un mois, ils sortent un omnibus de tous les numéros 1. Mais donc, Batman, Detective Comics, qui était le premier Batman, était rendu au numéro 781, qu'on peut trouver sur Internet, sur eBay. Il y en a des copies et des copies. Ils ont décidé de tout recommencer au numéro 1.
J'allais te demander, est-ce que ça vaut la peine? Je veux dire, est-ce que les nouveaux débuts sont à la hauteur des attentes, j'imagine, qu'on peut avoir en replaçant ces mythologies-là et surtout en lumière aussi des films qui oui. réinventent aussi à leur façon ces mythologies-là et créent des nouvelles attentes. Là.
Ce qui est quand même fou, c'est l'espèce de logistique que ça prend, tout ça. C'est créer, tu dis, OK, là, on s'assoit, toutes les bonnes idées sont faites autour d'une table, toutes les mauvaises idées sont autour d'une table. Là, ils sont chez DC Comics, ils disent, bon, là, en plus, c'est tous des univers parallèles. C'est des univers qui sont pas nécessairement qui se passent en même temps. On a 52 séries qu'on va recommencer au numéro 1. Il faut que ça soit continu. Mensuel, il y a 12 séries de Batman qui sont mensuelles depuis des années et des années. Donc, ça me fascine comment ils réussissent à faire ça. Puis l'espèce de... Un peu comme le manga qui vient par chapitre. Mm-hmm. Donc, chaque mois, un nouveau chapitre et tout. Dans tout ce qui s'est retrouvé, on a les deux premières semaines trois premières semaines qui ont paru. Le prochain, c'est en vente les mercredis, donc le 28 septembre, pour les derniers numéros 1.
Donc les 13 derniers.
Les 13 derniers. J'en ai lu beaucoup, tout sauf un. Puis il y a des coups de cœur. Tous mes coups de cœur, c'est tous les héros que j'ai jamais lus étant jeune. Batwoman, Wonder Woman et puis Catwoman. Des magnifiques, magnifiques artistes. Si vous passez justement à la première issue, vous pouvez trouver un fascicule qui parle des 52 numéros 1.
Et à l'intérieur de ça, justement, est-ce que c'est très axé mythologie, très axé origine, ou il y a quand même des bonnes histoires qui sont développées dans ces numéros-là?
C'est toujours un début. Souvent, les gens lisent des comics en recueil, donc qui se retrouvent avec 200 quelques pages. Là, on a comme 30 pages, des publicités. C'est comme un début. C'est vraiment l'origine de tout. Il y a beaucoup de personnages à introduire. Il y a beaucoup de choses à parler. Là, ça commence. Il y a des trucs qui se démarquent. Comme je disais, bon, moi, c'est mon... Mon coup de cœur, c'était mon Batwoman, parce que c'est une excellente équipe. Il faut que ce soit une bonne équipe d'écrivains, il faut que ce soit une bonne équipe de dessinateurs.
Et qu'est-ce qui fait la qualité pour toi de Batwoman, justement, si on focus sur celui-là?
Dessin.
Oui.
Moi, je suis à 100% dessin. C'est envers sur on reconnaît souvent les auteurs, mais je pense que quelqu'un sans le dessin, tu ne reconnais pas le... Est-ce qu'on reconnaît Stephen King en disant quatre lignes?
Non.
Peut-être, peut-être. Il y a comme il y a son style, ses personnages, son univers.
Mais il en faut quand même un peu plus. Là, il faut,
C'est ce qui est la bande dessinée, puis c'est ça qui est magnifique de parler de bande dessinée à la radio. C'est qu'on voit pas qu'est-ce qu'on voit.
D'où l'intérêt d'aller feuilleter justement aussi par après ou d'aller voir sur le web les extraits, les éléments dessinés qu'on peut voir.
Souvent, c'est ce que je conseille à tout le monde, pour vrai, de se lancer. C'est un coup de cœur. Les gens viennent, c'est tout des numéros 1, donc ça incite des nouveaux lecteurs à lire DC ou des comics des super-héros qui n'ont jamais lu. Donc, tu sais, en feuilletant, tu feuilles, tu regardes qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui a l'air intéressant. C'est toujours un petit début, là.
Oui, dans le fond, ce que je retiens peut-être un peu de ce que tu nous dis, Sam, c'est que si on veut se lancer un peu dans l'univers des comics, septembre 2011, c'est comme le moment. On va à la fin du mois, on attend que le gros fascicule avec tous les numéros 1 sorte. Ouais. On se le procure, on les lit, les 52, et de ça, ben, un peu comme toi, dans le fond, t'en as retenu 3 que t'étais mettre particulièrement, et on peut s'en choisir un ou deux si on a envie d'en suivre justement après ça, mais c'est la période pour commencer. C'est peut-être pour ça aussi, j'imagine, qu'ils ont pesé sur Reset, si on peut
permettre. Oui, tout à fait. Puis donc, tout au courant de la saison, de l'année, on va comme découvrir ensemble différents trucs. Même moi qui est comme, tu sais, tu penses, il y a toujours un espèce de niveau dans qui est geek, là. Quelqu'un joue aux jeux vidéo, les Donjons de Dragons, les comic books,
c'est pire.
C'est toujours mis dans l'espèce de même panier, mais il y a comme des niveaux quand même, là. Tu sais, je connais plus Batman qu'une fille. Mais j'ai l'air d'une fille pour un geek.
Alors, en fait, on recommande globalement la série?
Moi, je recommande, je dis mes coups de cœur tantôt. Sinon, aussi, série qui est Swamp Thing numéro 1, qui est faite par Scott Snyder, qui est un excellent écrivain, qui faisait Detective Comics, et Yannick Paquette, qui est le seul Québécois qui dessine présentement chez DC. Donc, il a gardé en plus son nom de famille, Paquette, qu'on connaît.
Oui, et qui est très, très apprécié aussi aux États-Unis. En fait, c'est une super star, je veux dire, dans l'univers
100%,
de la BD.
100%, Swamp Thing encore, mais c'est difficile. J'ai passé quoi? Je pense toutes mes fins de semaine maintenant à lire tous les numéros 1 de tout le DC, de tout l'univers. Puis c'est 75 ans d'histoire, donc ça prend toute une vie pour le comprendre. Mais non, je vous conseille d'aller directement au centre-ville, le seul comic book shop, donc à une distance de marche, premier reçu. Sinon, il faut aller dans les centres commerciaux.
L'imaginaire,
sinon les passants à 3000, bon, qui a Place Fleur de Lys, Galerie Capitale, on peut marcher. Quand même, premier reçu, ce qui est magnifique, c'est que c'est le plus vieux comic book shop à Québec. Ça fait 28 ans, c'est ouvert. Puis à l'époque, sur Saint-Jean, il y avait quand même une espèce, il y avait des jeunes partout. Il y avait l'Arlequin, il y avait le Cachemire, il y avait la Fourmi Atomique. Il y avait un arcade entre les deux. Mmh. Maintenant, l'arcade, c'est devenu le délice d'érable. Les bars ont fermé. Donc, l'espèce d'endroit un peu étrange qui reste,
c'est celui-là.
C'est le premier issu.
Et donc, je rappelle, les quatre sélections, les quatre coups de cœur, premier album, donc Wonder Woman, Catwoman, Batwoman, également Swamp Thing numéro 1. Sinon, 100%. La série intégrale pour essayer de se lancer.
Merci.
Summer Duck, merci beaucoup. On se revoit dans 2 semaines.
Je pense que oui.
Et nous, de notre côté, on repart en extra avec Saul B. Et au retour, on jase avec Jeff. Beaucoup de matériel d'ailleurs qui est disponible en téléchargement gratuit ou non sur le web. Les liens sont sur le blog, je le rappelle. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me fait taper du pied joyeusement. Et en même temps, je trouve que ça met la table du côté peut-être science-fiction à cette musique. En fait, j'essaie de faire des liens boiteux ou non. Et parce qu'on va parler de science-fiction, de BD de science-fiction, une nouvelle série qui vient d'être lancée chez Soleil, en fait, qui a été lancée en cours d'été. C'est la nouvelle série d'un dessinateur de Québec, d'un dessinateur également qu'on avait connu avec Saint-Germain, avec Les Crépuscules des Dieux. Il est avec nous ici à l'émission La Vie en BD. Jeff, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'avais dit en introduction, et je vous le lance également, en fait, on vous a connu surtout avec l'univers du fantastique, notamment avec Les Crépuscules des Dieux. Avec White Crows, c'est vraiment à fond la caisse en science-fiction. Qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être de changer un peu de type d'univers fantastique?
Ben, chaque nouveau projet, c'est pour moi finalement une nouvelle expérience, un nouvel essai avec finalement des nouveaux univers. Moi, je mets toujours mon dessin pour finalement le récit. Je le mets pour avoir finalement des expériences différentes. Puis finalement, quand je me suis dit je vais faire quelque chose de SF, c'est parce que j'avais vraiment le goût depuis longtemps de me lancer dans un autre univers que celui de l'heroic fantasy ou carrément de la mythologie nordique.
Et côté référence, peut-être pour aider les gens à visualiser le style d'univers que vous nous proposez, moi, en lisant, je pensais par exemple à Blade Runner, je pensais au cinquième élément aussi. Est-ce que je me trompe avec ces références-là?
Non, en effet, White Crows, c'est vraiment une espèce d'hommage à tout ce qui m'a intéressé comme jeune ado en SF, soit pour le cinéma, soit pour du côté de la bande dessinée. C'est vraiment un hommage à des séries comme Valérian, comme Yoko Tsuno, du côté cinéma aussi, énormément de références pour tout le cinéma hollywoodien. D'ailleurs, je m'en cache pas, le personnage principal s'appelle Frank Willis parce que c'est un hommage à Bruce Willis. C'est vraiment le même type de caractère qu'on retrouve dans le héros principal. Ce qui fait que je me suis dit, je vais y aller vraiment avec des codes de la SF qu'on reconnaît bien, que finalement le lecteur n'aura pas de misère à reconnaître puis à apprécier.
Oui, c'est peut-être pour ça, en fait, je veux dire, dès les premières pages, on dirait qu'on se sent un peu à la maison du moment qu'on a quelques références de science-fiction, on se sent à la maison. On comprend rapidement aussi votre univers, les relations entre les différentes races, entre les différents personnages aussi, comme vous disiez, le flic bourru, la jeune fille rebelle, curieuse, le robot serviteur dévoué. Mais en même temps, justement, de partir un peu avec ces codes-là, c'est une chose, mais vous réussissez aussi à les dynamiser et à leur donner votre couleur à vous.
Oui, il fallait que je sorte finalement un peu des sentiers battus quand même si je voulais rester classique dans la forme, mais essayer justement de pousser un petit peu plus loin le sujet, essayer de que le lecteur finalement se retrouve à la fin de l'album avec des surprises, puis avec un bon moment de lecture, parce qu'on s'entend, je veux dire, c'est une lecture qui est carrément juste pour du divertissement. Mmh. Je n'essaie pas de réinventer la roue, j'essaie pas de faire quelque chose qui va carrément révolutionner le genre. Mais ce que je voulais, c'était une histoire bien construite, bien racontée. J'ai employé plusieurs éléments scénaristiques pour justement que le lecteur ait des surprises au fur et à mesure de sa lecture. Puis ce qui m'importait beaucoup, c'était que on s'attache au personnage, donc finalement qu'on ait une certaine sympathie vis-à-vis justement le trio qui représente les trois protagonistes du récit. Donc le père Willis, sa fille Shelley, puis même le robot serviteur Vecteur.
Oui, parce que veux pas, en fait, c'est un tome 1. Si on veut que les gens reviennent pour le tome 2, le tome 3, ben ils vont revenir aussi pour les personnages, parce que bon, l'histoire, elle se tient à l'intérieur de l'album, mais faut planifier pour l'avenir aussi.
C'est ça. Puis en même temps, je voulais pas tout raconter dans le premier tome. Je voulais pas non plus partir sur un cycle de 6 ou de 4 albums, comme j'ai déjà fait avec d'autres séries. Puis que le lecteur ait toujours à attendre un an avant d'avoir la suite. Puis qu'après un premier album, il puisse dire, bon, je sais pas si c'est bon, ça a l'air bien, mais on va voir la suite pour avoir une idée. Non, moi, je voulais avoir un premier album qui soit finalement une histoire qui soit complète, carrément, qu'on ait une bonne aventure, qu'on referme le tome en disant « Wow, c'était le fun, je suis vraiment éclaté ».
Et au niveau scénaristique, en fait, il y a quand même beaucoup d'action dans le tome, mais au cœur du récit, j'ai l'impression que ce qu'on retrouvait, c'était plus l'évolution quand même psychologique des personnages, en mesure où c'est les retrouvailles, dans le fond, entre le père et sa fille, c'est ça l'élément central aussi, donc ça donne quand même le ton, là, c'est les personnages qui sont quand même à l'avant-plan du récit.
Oui, parce que bon, même si justement ça reste un récit d'aventure, avec un peu d'humour, avec quelque chose d'assez léger, je voulais tout de même qu'on aille une bonne dynamique entre les personnages, qu'on sente que bon, il y a de la tension entre les deux, ils ont des secrets qui se cachent l'un et l'autre, puis comment est-ce que ça va finalement se dérouler tout au long du premier album. Bon, puis en même temps, je me suis dit, c'est sûr et certain que c'est un premier ouvrage pour moi en scénario. J'avais jamais fait un 46 pages au complet comme ça, et je voulais pas non plus me donner trop de pression, si on veut. Donc faire quelque chose où est-ce que j'avais à raconter une bonne histoire, Puis la mise en place du contexte va se faire au fur et à mesure, finalement, du reste des tomes qui vont venir.
Et dans la dynamique de travail, justement, de travailler sur son scénario, de développer son propre scénario plutôt que de le faire en collaboration, est-ce que ça change beaucoup de choses? Est-ce que ça change pas mal la donne?
Oui, bien c'est ça, certain que j'ai pas mal plus de questions à me poser par rapport à un scénario que je reçois de mon scénariste. Mais bon, disons que pour ce qui est de créer soi-même son histoire, ben c'est se donner finalement des objectifs. Puis bien entendu, quand je me suis dit je vais faire des albums une aventure par album, je me suis aperçu que c'était pas mal d'ouvrages. Parce que c'est vraiment un casse-tête. Là. Chaque élément qu'on introduit au départ, faut finalement faire une résolution avant la fin de l'album. Pas finir non plus un album avec 5 pages d'explications. Donc c'est y a une espèce d'équilibre qu'il faut garder pour au niveau de la scénarisation pour bien rythmer le récit. Puis que ça soit pas trop léger, parce que bon, c'est quand même à 46 pages, ça passe vite. Puis pas trop dense pour que ça soit un album, deux albums comprimés en un.
Et en même temps, j'ai l'impression que ça vient justifier aussi ce qu'on disait au départ, l'intégration des codes de science-fiction qui sont quand même déjà connus. Donc ça devient peut-être plus facile parce que l'univers il est pas entièrement établi. On a simplement des éléments d'univers à établir, mais il y a d'autres trucs qui rejoignent déjà un peu tout le monde. A priori.
C'est ça, exactement. Donc, je voulais que l'introduction à l'univers de SF soit pas difficile pour le lecteur. Puis après ça, ben c'est ça, c'est tous les thèmes, les sous-thèmes finalement que j'introduis dans le récit. L'humanité qui est vraiment une espèce de paria par rapport aux extraterrestres, la relation de père et la fille, tout le secret qu'ils ont chacun des personnages, mais aussi leur passé qui est vraiment juste... On l'a juste entreaperçu finalement un peu à travers le premier tome, mais ils ont tout un passé, ils ont un passé commun, c'était une famille avant, puis ça c'est le genre de choses qui vont être à élaborer dans les prochains opus, là, les prochains tomes.
Et dans White Crows aussi, JF, bien entendu, on peut pas passer à côté des séquences d'action, des belles séquences d'action. Et je me demandais en fait, côté scénarisation, côté développement, comment on fait l'approche? Est-ce que c'est vraiment déjà scénarisé un peu, OK, c'est tel mouvement, ou c'est plus quand on arrive au dessin qu'on essaie de trouver le rythme un peu dans cette séquence-là?
Ben, disons que je travaille vraiment en parallèle le dessin, dessin scénario. J'écris toujours un énorme synopsis, un séquencier, là, finalement. Je vais décrire chaque séquence de la première page à la dernière page avant de commencer mon travail directement sur le découpage. Mais une fois que mon séquencier est prêt, une fois que je sais qu'est-ce qui se passe du début à la fin, là, à ce moment-là, c'est vraiment l'étape de découpage qui implique beaucoup de dessins, mais c'est souvent juste des petits croquis dans lesquels, moi, je sais dans la page qu'est-ce qui va se passer d'une case à l'autre, quels vont être les plans, finalement, les plans de vue de chaque case. Puis c'est là que tout le travail de dialogue se fait. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il y a toujours un travail entre ce que je visualise en dessin et versus le dialogue qui se bâtit.
Oui, puis en même temps, dans le choix, j'imagine, des types de cases, des cases plus petites, des cases plus allongées, des grosses cases. Donc, on crée un peu le montage pour l'œil et la rapidité, dans le fond, des images ou de la séquence à travers ça.
Oui, c'est ça. Puis ça, je veux dire, c'est sûr que moi, j'ai pris un parti pris d'être cinématographique dans ce genre de d'histoire-là. Puis, naturellement, au niveau des scènes d'action, j'ai rendu ça le plus dynamique possible pour finalement créer une sorte de récit haletant pour le lecteur. Donc, on a envie toujours de passer d'une page à l'autre pour savoir qu'est-ce qui va subvenir dans le récit.
Oui, et c'est plaisant aussi pour l'œil, je veux dire, de justement pas avoir des cases régulières, mais qu'il y ait vraiment, je veux dire, une découpe, une logique peut-être à l'intérieur de la planche elle-même, mais qu'on joue justement avec ce découpage-là aussi, là, pour briser peut-être une certaine régularité, entre guillemets.
Oui, beaucoup de cases éclatées. Mm-hmm. Quand j'avais besoin justement de prendre l'espace, je prenais tout l'espace qu'il fallait.
Et parallèlement, en fait, question curiosité, quand vous regardez votre premier album ou vos premiers travaux et vous comparez avec White Crows, est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre trait s'est affiné, a beaucoup évolué justement avec l'expérience?
Ben comme, ouais. En fait, c'est surtout que j'adapte mon trait au ton du récit. Si j'ai besoin de faire quelque chose d'un peu plus sérieux comme Le Crépuscule des Dieux, ben à ce moment-là, je vais employer un trait un peu plus dans ce cas-ci, pour Le Crépuscule, les derniers tomes, j'ai travaillé avec le pinceau, mais vraiment avec beaucoup d'aplats noirs, puis au niveau de la coloration aussi. Mm-hmm. La couleur est quand même faite par un coloriste, mais je donnais des indications pour que ce soit plus sombre, moins coloré, finalement, que par exemple White Rose qui est plus léger, là. Dans ce cas-ci, j'étais allé à fond au niveau du chroma, finalement, de la palette de couleurs.
Oui, puis un trait qui est très souple aussi, je trouve, là.
Vous voulez dire?
Oui. Une certaine souplesse, en fait, je veux dire.
C'est ça. Finalement, c'est d'être un petit peu le bagage d'illustrateur puis de graphiste qui est encore en moi. C'est de s'adapter, finalement, à ce que j'ai besoin de raconter. C'est de mettre à profit mon talent pour un récit. Mm-hmm. Donc, avant tout, moi, je m'efface derrière ça, puis je raconte l'histoire puis du mieux que je peux avec les outils que j'ai. Mais si j'ai besoin de faire un autre récit plus tard qui va être plus humoristique ou plus jeunesse, je vais réadapter mon trait, je vais réadapter mon dessin pour faire que ça soit l'idéal finalement par rapport au récit que j'ai à raconter.
Et le récit, on le découvre, il s'appelle White Crow, il est disponible depuis cet été en librairie. Les lancements ont eu lieu, notamment à Québec, la semaine dernière. Oui. Et Jeff, en terminant, déjà un échéancier pour le tome 2 ou vous laissez une petite liberté?
Là, je suis en train de terminer le tome 6 du Crépuscule des Dieux, qui mm-hmm. va compléter le premier cycle pour cette série. Donc, le tome 2, je devrais être capable de le sortir pour l'année prochaine, septembre. Il devrait être terminé pour septembre ou octobre de l'année prochaine.
Alors, on va continuer de suivre tout ça. JF, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Voilà, White Crows, je le rappelle, tome 1 qui s'appelle Le Cœur d'Acier. C'est disponible chez Soleil. Et nous, on repart en pause musicale. On revient tout de suite après. Toujours avec vous pour l'émission La vie en BD ici à CKRL 89.1. Peut-être on prend quelques instants pour porter un regard sur des sorties récentes qui sont apparues dans mes mains comme ça magiquement. Notamment, en fait, vous avez peut-être vu ça passer, la série Kid Paddle de Midam qui continue deux nouvelles publications depuis le début septembre. Le tome 12, notamment Panic Room, ainsi qu'un hors-série Monsters. Pour le tome 12, en fait, je sais pas si vous connaissez déjà cette série. En fait, c'est un jeune gamin qui est imprégné d'univers de jeux vidéo, d'univers de films d'horreur, et qui vit des petites aventures. En fait, c'est des gags d'une planche, formule assez classique, finalement. Ce qui est intéressant dans les séries de Midam, Kid Paddle, que ce soit, ou le spin-off Game Over, c'est qu'il fonctionne beaucoup en outsourcing, donc dans la mesure où il invite ses lecteurs à lui envoyer des scénarios, lui fait une sélection là-dedans et les met ensuite en dessin, avec bien entendu apport financier pour le créateur participant. La série avait pris une petite pause de quelques années, à peu près 2 ans, si ma mémoire est bonne, entre le tome 11 et le tome 12. Donc, on sent dans la sélection des gags qu'il y a eu justement cette pause, que ça a peut-être permis de rehausser un peu la qualité. Je me rappelle que le tome 11 avait reçu une réception un peu plus partagée comparativement à d'autres albums. Alors, la forme revient dans l'esprit Kid Paddle au tome 12. Ça c'est clair. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, je vous dirais, en fait, personnellement, je ne suis pas le public cible. J'ai tout de même souris à quelques reprises, c'est assez rigolo, mais je sens que c'est vraiment plus une BD pour les garçons peut-être de 10, 12, 13 ans. Donc quand on commence à découvrir ces univers-là et qu'on apprécie la magie du dégueu, alors ça peut être intéressant. Et si vous appréciez Kid Paddle, ben effectivement vous allez trouver votre compte avec le tome 12, c'est certain. Petite mention passage concernant le hors-série Monsters. Lui, peut-être un peu moins d'intérêt, c'est une espèce d'inventaire de monstres de films d'horreur. Alors, dessiner sauce kid paddle, sincèrement, je vous dirais, si ce type de recueil-là vous intéresse, il en existe des bien meilleurs, notamment celui que Brian Perrault avait fait, je crois, les Créatures fantastiques du Québec. Alors peut-être, jetez un coup d'œil un peu plus de ce côté. Alors voilà, donc, Kid Paddle qui est publié comme à l'habitude. Je retrouve le nom de la maison d'édition. Je crois que c'est chez... Mad Fabric, voilà, donc via Dupuis, je crois, au Québec. Alors, cela étant dit, on part en pause. On revient tout de suite après à venir. Notamment, on discute avec Benoît Godbout autour de l'Académie des chasseurs de primes, tome 2.5. Également, Pascal Roux et sa chronique manga. Elle nous présente la série Ikigami, donc série très populaire, faut-il le préciser.
La 21e édition des Rendez-vous Estrade, du 6 au 10 octobre dans le quartier Petit Champlain. 5 jours de musique, de chansons, d'ateliers, de danse, d'animation, sans oublier la joute chantée et la randonnée. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la Bretagne et du Québec. À Lelange, jusqu'aux petites heures, Gentil Corum, Les Quêteux, Gabriel Boutillier et bien d'autres. Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca.
La une qui tue avec Jean-Philippe Gauthier.
Un jeu questionnaire au cœur de l'actualité. Les concurrents qui devront faire face à l'élimination parce qu'un seul survivra à la une qui tue.
En nouveauté ce soir 19h à Télé-Québec, l'autre télé.
Remember how I'm going to live forever.
Lundi, 17h30, le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis, en compagnie de Robert Boisclair. Seulement au 89.1.
Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
Toujours l'antenne de CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour La Vie en BD. Je vous invite à visiter le blog de l'émission, d'ailleurs, lavieenbd.wordpress.com. Et on reste dans notre tonalité science-fiction. On a parlé d'un type de science-fiction en BD avec JF tout à l'heure. On en parle d'un autre avec Benoît Godbout. Alors, ce dont on parle, c'est l'Académie des chasseurs de primes, le tome 2.5, en vacances. Benoît Godbout, bonjour.
Bonjour.
Alors, tome 2.5, peut-être pour se situer, on retrouve donc l'univers des chasseurs de primes tel qu'on l'a connu dans, évidemment, tome 1, tome 2, le tome 3 à venir qu'on a connu, qu'on a découvert dans Safari également. Mais donc, on situe un peu en entre-deux, dans le fond.
Oui, c'est un entre-deux, mais surtout, c'est une façon pour les auteurs et pour moi d'aller creuser un peu dans le quotidien, un peu plus... le vrai quotidien des étudiants de l'Académie, tandis que les tomes qu'on appellerait les tomes réguliers sont dépeignent des événements plus grandioses.
Oui, j'avais l'impression un peu, je me disais, ça revient un peu à l'esprit du premier où il y avait justement les côtés un peu plus massifs, mais beaucoup de quotidiens, de cours, de scènes de vie, si on peut dire. Là.
Oui, c'est vrai, il y a des parallèles à tirer entre les deux. C'est sûr que le tome 1, quand même, a une trame narrative un petit peu plus, qui se suit un petit peu plus à travers les pages. Il y a quand même les 30 premières pages qui est une histoire complètement continue en elle-même. Mais il fallait présenter ce qu'était l'Académie, qui étaient les étudiants. Tandis que dans le tome 2.5, on passe d'une planète à l'autre, d'un endroit à l'autre, en suivant chacun des étudiants pour voir ce qu'ils font en vacances.
Et d'ailleurs, côté présentation, si on prenait quelques secondes pour présenter l'univers de l'Académie des chasseurs de primes à ceux qui ne connaissent pas cette BD, comment on le présenterait?
Je pense que on me demande souvent c'est pour quel âge. Mm-hmm. Moi, je ne sais pas trop quoi dire parce que personnellement, j'ai 34 ans et c'est le genre de BD que j'adore lire. J'ai des fans qui partent d'un petit garçon de 8 ans à une femme de 25 ans, à un homme de 38 ans. Je pense que ça dépend vraiment des goûts à ce niveau-là. Sinon, c'est l'histoire d'une dizaine de jeunes étudiants qui arrivent dans un vaisseau spatial qui est une académie et ils vont devenir des chasseurs de primes. Ils vont suivre des cours, ils vont vivre plein d'aventures. Et les chasseurs de primes dans cet univers-là, c'est les gens qui, dans le fond, font le lien avec la loi et les différentes planètes. Parce que quand on parle d'une planète, quand un criminel se sauve du lieu du crime, il peut aller n'importe où dans la galaxie. Pour la police, ça peut être très compliqué. Donc, il y a les chasseurs de primes qui viennent combler un peu cette lacune-là.
Et dans le 2.5, outre justement ces récits de vacances, il y a aussi beaucoup de monde qui travaille sur l'album. Habituellement, vous êtes plutôt un trio autour de cet univers-là. Pour le 2.5, vous êtes 11. Pourquoi avoir choisi un peu d'aller inviter des gens à collaborer?
Il y a plusieurs raisons à ça. En tout cas, la première raison, ce serait que moi, je trouve vraiment intéressant d'explorer plusieurs styles dans une série. Normalement, les tomes réguliers, je suis l'unique dessinateur, je fais moi-même la couleur, et les deux autres collaborateurs sont des scénaristes. Dans ce cas-ci, les scénaristes sont les mêmes, et les autres sont des gens que j'ai sollicités parce qu'ils s'intéressent à la série, mais aussi de par leur talent, parce que en faisant un tome comme ça, je voulais pas non plus décevoir les fans des deux premiers tomes avec, des styles qui étaient pas à la hauteur. C'est vraiment des dessinateurs professionnels qui participent à ce tome-là. Et pourquoi être allé chercher d'autres dessinateurs? C'est vrai que pour moi, de voir mes personnages sous la plume d'un autre artiste, c'est un trip vraiment le fun.
De voir un peu comment ils veulent l'imaginer. Et juste avec des fois la différence de trait, je trouve que ça donne un autre style, un autre ton aussi quand même. On se rend compte à quel point le dessin est important pour définir justement l'univers. Là, c'est capital et plus que capital.
Ah oui, définitivement, parce que les auteurs sont les mêmes, comme je viens de vous dire. Mm-hmm. Puis on se retrouve, dans le fond, on reconnaît les personnages, c'est sûr. J'ai laissé beaucoup, beaucoup de liberté aux dessinateurs invités parce que je voulais qu'ils s'amusent, je voulais que ce soit un trip de gang. La plupart d'entre eux sont des amis proches, donc ou bien des collègues de travail. Donc je voulais que ce soit amusant, je voulais que ce soit un projet rassembleur, mais qui allait plaire aussi aux fans.
Est-ce que vous avez été surpris parfois de certaines réinterprétations? Parce qu'en même temps, vous connaissez bien, comme vous dites, le style justement des autres dessinateurs que vous avez conviés, mais quand même des surprises au produit final ou à voir l'évolution de leur proposition visuelle?
Ben à chaque fois que je recevais une page, c'était une surprise, une belle surprise. Je me régalais parce que d'habitude les pages d'Académie des chasseurs de primes sont le fruit d'un travail ardu d'un seul dessinateur qui est moi. Et là de les voir arriver, les voir apparaître comme ça presque comme par magie, c'était vraiment agréable comme sensation de lire dans le fond mes personnages sans que ce soit moi qui les ai dessinés. Tu sais, c'est comme des vacances pour moi aussi. Là.
Oui, effectivement. On aurait pu le spécifier dans le sous-titre. et par ailleurs, en fait, je me demandais, bon, déjà, la série Académie des chasseurs de primes, vous êtes trois à travailler là-dessus, comme vous le disiez. Donc, vous dessinez, il y a deux scénaristes, donc Yannick Champoux, Michel Lacombe. Et c'est cet univers-là, au départ, c'est vous, il me semble, qui l'avez créé, qui l'avez imaginé, du moins les personnages. Donc, comment c'est un peu la dynamique pour créer les albums, les histoires et s'assurer aussi que ça reste cohérent dans le fond, d'un album à l'autre pour faire évoluer la grande série, du moins avec les personnages et le reste? Là.
Oui, c'est moi qui ai créé les personnages, qui ai créé l'univers de base, un peu ce qu'on appelle le setting et tous les personnages, finalement, les personnages principaux. C'est moi qui les ai créés. Puis, la façon dont on fonctionne, c'est que moi, dans le fond, j'ai écrit une espèce de bible. Chaque personnage a une personnalité, un passé. Je sais d'où ils viennent. Je sais, dans le fond, un peu où ils s'en vont. J'en discute avec mes deux collaborateurs scénaristes. Puis, il y a Michel Lacombe qui écrit... d'abord, on va discuter du thème du prochain tome qu'on veut faire. Et là, on en discute tous ensemble, on fait des brainstorming. Et ensuite, Michel Lacombe fait, dans le fond, une première version du scénario qui essaie d'entrer de peine et de misère dans 64 pages de BD, parce qu'évidemment, il y a toujours des idées pour en faire 120 pages par tombe. Mm-hmm. Et ensuite, Yannick et moi, ben on relit tout ça, on fait nos commentaires, nos ajouts, puis il y a plusieurs, donc il y a plusieurs versions du scénario à partir de là.
Et avec l'ajout j'allais faire la mathématique des 8 autres personnes pour le 2.5, est-ce que ça a beaucoup changé aussi la dynamique, ça a compliqué les choses ou c'était en même temps, comme on fournit un peu l'histoire déjà prête, et après ça c'est simplement de voir où ils vont aller avec ça et de les accompagner au besoin ou?
Mais il y avait un petit peu de va-et-vient avec les histoires. C'est les mêmes auteurs. Le processus pour écrire les histoires était le même. Mais moi, je savais qui j'approchais quand les collaborateurs, ça a été coulé dans le béton, là, qui allait participer. Je leur ai demandé aussi quel genre d'histoire aimeraient illustrer, quels étaient leurs personnages préférés dans la série. Tout ça, je voulais qu'ils soient à l'aise. Je voulais qu'il y ait les éléments pour s'amuser quand ils allaient dessiner leur partie. Mm-hmm. Donc, par exemple, pour l'histoire qui a été illustrée par Sylvain Lavoie, j'ai choisi l'histoire la plus humoristique et le scénariste le plus humoristique aussi, qui est Yannick Champoux, parce que le tome 2.5, c'est les mêmes auteurs, sauf que à chaque histoire, c'est un auteur unique. Donc, mm-hmm. Michel a écrit quelques-unes et Yannick a écrit le reste.
Et on le disait au départ, donc ça s'inscrit entre le tome 2 et le tome 3, le tome 3 qui est à venir, le tome 2 qui existe déjà. Donc, est-ce qu'on essaie aussi à travers l'album de mettre la table pour des éléments qu'on va pouvoir incorporer ou développer un peu plus longuement dans le prochain tome?
Oui, tout à fait. Puis il y a des choses qui sont présentes dans les histoires qui semblent anodines et qui sont reprises au tome suivant. C'est une des spécialités de Michel Lacombe. Puis oui, il y a des personnages qui font leur entrée dans le tome 2.5 qu'on va retrouver comme protagonistes principaux principaux dans le prochain tome. Et en même temps, dans le tome 2.5 aussi, il y a des flashbacks qui nous rapportent à avant les événements du premier tome. Mm-hmm. Donc je pense que pour ceux qui connaissent bien la série, ça peut être vraiment intéressant.
Et pour ceux qui la connaissent pas, est-ce qu'on dirait commencer par le tome 1 pour pouvoir vraiment apprécier après ça le 2, le 2.5, ou est-ce qu'on peut quand même se lancer avec la plus récente sortie?
Bien, pour les nouveaux lecteurs, moi je recommande toujours le tome 1 parce que c'est là qu'on présente tout le monde. Je pense que le tome 1 est excellent pour nous mettre dans le bain, pour nous amener dans l'univers, puis je pense que c'est assez clair qui est qui là, avec le tome 1. Puis ensuite, c'est une fois que ça s'est établi, là, on part pour l'aventure du tome 2. Et le tome 2.5 peut brûler là, certains punchs. Si on lit d'avance, si on lit avant les deux autres, on va sûrement comprendre l'histoire et tout, mais on va se brûler les punchs.
Oui, donc on garde en tête, en fait, le côté sériel. Et j'ai lu à quelque part, en fait, qu'on espérait monter jusqu'à une dizaine de tomes là, lorsque tout ça sera fini. Un tome par personnage, dans le fond.
Oui, oui, oui. C'est une ambition qu'on a. On va voir ce que ça donne, parce que là, évidemment... À un tome et demi par année, ça nous amène loin dans le temps, sauf que oui, c'est un souhait que j'aurais, oui, avec les auteurs.
Et en fait, les fans jusqu'à date semblent suivre, et peut-être en terminant, en fait, j'avais été faire un tour sur le site Facebook de l'Académie des chasseurs de primes, il y avait des gens qui faisaient du cosplay en chasseurs de primes de votre univers, alors j'imagine que ça doit être satisfaisant de voir l'univers en repris comme ça par les lecteurs.
Ça, c'est incroyable, c'est tellement un beau cadeau à faire à un auteur, là, vu aux cosplayers qui aiment les créations des gens d'ici, d'être là live avec eux, me promener parmi eux, leur parler, c'est, il y a quelque chose de très émouvant là-dedans, effectivement.
Alors, ben, en fait, on invite les gens, donc, pour les nouveaux à découvrir, à partir du tome 1, pour ceux qui connaissent déjà, ben, le tome 2.5 est sorti. Benoît Godbout, merci beaucoup.
Un énorme merci.
Bonne fin de journée.
Au revoir.
Voilà, Benoît Godbout, qui est donc l'un des dessinateurs et l'un des créateurs de cette série, l'Académie des chasseurs de primes. Le tome 2.5, sous-titre En vacances, qui est publié au 400 coups, collection Retard. Alors ben voilà, pour cela, on prend une courte pause et au retour, on reste quand même. En fait, on est cohérent dans nos univers aujourd'hui à la vie en BD et on va jaser manga avec Pascal Roux. voilà, petit extrait de Soul B et un extrait bien nommé en fait pour la prochaine chronique, puisque la pièce dont qu'on a entendu en filigrane, elle s'appelle Manga. Et justement, on va parler de Manga en compagnie de Pascal Rowe. Pascal Rowe, vous avez peut-être lu, connu à travers les magazines Solaris ou Alibi. Pascal, qui est également une fanatique de manga, et elle va nous aider à explorer cet univers-là, en fait, par nous. J'entends tout moins moi, parce que je ne le connais pas du tout, cet univers. Pascal Rowe, bonjour.
Bonjour Raymond. Alors, j'espère pouvoir aider au lieu de vous mêler encore plus, parce que le manga est un univers assez complexe, merci. Quand on n'est pas tombé dedans, petit, comme dans Obélix, dans la potion magique, ça peut devenir assez difficile de savoir qui fait quoi. Quand j'étais libraire, j'avais des parents hallucinés qui venaient et disaient « Ok, mon fils veut des mangas, je ne sais pas par quoi commencer, donc... » On respire.
On respire, et en même temps, j'ai presque envie de dire justement que ce soir, tu nous amènes un peu une proposition de où commencer avec une série assez imposante, en fait, qui s'appelle Ikigami.
Oui, Ikigami, de l'auteur Motoro Maze aux éditions Kaze, la collection Seinen. Alors, Seinen, quand on voit ça, c'est pour les jeunes adultes. Shonen pour les adolescents plutôt jeunes et shoujo pour les jeunes filles assez jeunes aussi. Pour le reste, on en parlera dans d'autres émissions parce qu'il y a tellement de collections, il y a tellement d'appellations. Donc Ikigami, Préavis de mort, c'est une série qui a commencé à être traduite en 2009, mais qui a commencé à être publiée en 2005 au Japon sous forme, comme disait Sam tantôt, c'est comme les comics, c'est publié dans des magazines sous forme de chapitres de façon mensuelle. Et quand ça plaît suffisamment aux lecteurs au Japon, à ce moment-là, c'est publié en recueil. Et ces recueils ont peut-être une chance d'être ensuite traduits en français. Donc c'est toujours une histoire de popularité. Quand ça nous arrive en France, puis ici au Québec, c'est parce que les lecteurs au Japon l'ont plébiscité, ont écrit des petites cartes pour dire « oui, j'aimerais que ça continue ». Donc ça ne veut pas dire qu'on aura toujours le meilleur. Malheureusement, il y a beaucoup de scrap qui est traduite. Alors, Ikigami, qu'est-ce que c'est ? Ça se passe dans un Japon futuriste, mais assez proche, qui a une histoire parallèle. Cette histoire parallèle, c'est qu'il existe une loi qui s'appelle la loi de sauvegarde de la prospérité nationale, qui entend amener la population à s'interroger en permanence sur la valeur de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi ? C'est une loi qui force tous les élèves du primaire, donc vers 6 ans, à se faire vacciner. C'est une vaccination de prospérité nationale. Un vaccin sur 1000 contient une capsule qui va tuer le 1 sur 1000 qui le reçoit entre 18 et 24 ans à une date et une heure programmée d'avance. Mais personne ne sait qui c'est. Cette loi a été promue donc pour inculquer aux gens la valeur de la vie, puisque personne ne le sait. Et donc,
ça donne la couleur de l'univers.
Ça donne la couleur de l'univers. Et donc, comment cet Ikigami, ce préavis de mort, est donné ? Eh bien, par des livreurs qui viennent 24 heures exactement avant l'heure dite délivrer le préavis de mort.
Et dans la série, on suit les livreurs ou les gens
dans
qui
la
vont
série,
mourir ?
Donc, on suit à la fois le personnage de Fujimoto, qui est le personnage principal, qui est le livreur d'Ikigami, qui vient juste de commencer dans le premier tome. Il vient de commencer son travail, il a eu 25 ans, il est sauvé, il ne mourra pas. Et on suit également, dans chaque tome, deux histoires, donc deux élus, parce qu'il faut savoir que la personne qui doit mourir est considérée comme un héros de la prospérité nationale. C'est un univers totalitariste absolument sombre, glauque, quoique dans certaines histoires de l'Ikigami, toutes les victimes, tous les élus ne réagissent pas de la même façon.
Il y en a qui rejettent ça, il y en a qui embrassent la mort.
Il y en a qui embrassent la mort, il y en a qui rejettent, il y en a qui veulent utiliser leurs dernières 24 heures parce qu'il ne leur reste que 24 heures pour faire quelque chose de particulier. Et moi, je me demandais pourquoi 24 heures avant, pourquoi pas un mois, deux mois avant. Non, c'est pour éviter le crime et pour éviter la délinquance. Parce que si on sait que dans un mois, on va mourir, pourquoi aller à l'école, pourquoi travailler, pourquoi respecter les lois, dans le fond.
Et j'imagine que c'est une belle opportunité aussi d'explorer justement les thèmes, le thème de la mort, de l'acceptation de la mort et le reste. C'est quand même extrêmement riche aussi là, comme choix de sujet, dans le fond.
C'est très, très riche parce que quand on suit les personnages, ce sont des destins tellement uniques. J'avais lu une interview de l'auteur qui disait que quand il avait assisté à la télévision comme tout le monde au septembre 2001, il s'est dit, tous ces gens qui meurent quasiment en direct et on n'en saura jamais rien de qui c'est. Et il s'était demandé, si on se penchait sur le destin d'une personne à chaque fois, qui sait qu'il va mourir ? Et c'était la base, mais c'est sûr que c'est très riche parce que bon, c'est toutes les questions du sort des individus, toutes les questions de l'absurdité, le totalitarisme, l'État qui décide pour vous, etc. etc.
Éventuellement la rébellion aussi, j'imagine.
Éventuellement la rébellion, mais il est prévu, bien entendu, dans cet univers que si on se rebelle, il va y avoir des conséquences, pas pour vous parce que vous serez mort, mais la famille ne recevra pas la pension, parce qu'il y a une pension versée à la famille, une pension de la prospérité nationale. De plus, cette famille va être dénoncée comme parent d'un élément dégénéré. Éventuellement, cette famille va être poursuivie par la police de la pensée pour voir si eux-mêmes sont dégénérés, éventuellement subir une rééducation. Ça me fait vraiment penser à la rééducation intellectuelle en Asie, en Chine, etc.
Parce qu'en fait, je veux dire, j'écoute ça présentement, Pascal Rowe, et je me dis, il y a des ponts à faire avec le Japon moderne, du moins avec ce qu'on entend, ce qu'on comprend du Japon, il y a un côté reflet là.
Tout à fait. C'est un reflet, au même titre que beaucoup de romans de science-fiction comme 1984, Le meilleur des mondes, Fahrenheit 451, tout ça, ce sont des reflets d'une société. C'est sûr que Ikigami est un reflet du Japon moderne, le Japon qui est enfermé dans ses structures, qui est enfermé dans ses codes. C'est aussi un reflet des paradoxes de la société japonaise. On voit souvent les deux extrêmes, le Japon zen, très très zen, avec les arts martiaux, la philosophie, etc. Puis le côté complètement fou du Japon, les concours de karaoké,
les habillements et des trucs complètement...
C'est complètement hallucinant, comme je voyais, on parlait de lutte tantôt, la lutte dans des rings entourés de fils barbelés, ce qui se font au Japon. Mais tout ça, en fait, c'est pour montrer à quel point le Japon est une société qui a l'air toute lisse, toute nette vue de l'extérieur. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui sort un petit peu la tête. D'ailleurs, il y a un terme pour ça, on appelle ça le clou qui dépasse. Il faut taper dessus.
Et Pascal, si tu nous amènes cette série Ikigami dans cette première chronique, j'imagine que c'est parce qu'il y a des beaux plus. Là. On parle beaucoup du récit au niveau graphique, au niveau du ton. Est-ce que, je veux dire, c'est un récit qui en vaut la peine aussi au niveau visuel, au niveau narratif?
Ça en vaut la peine. Je dirais qu'il y a des gros plus. Bon, c'est un thriller parce que on a beau se dire, bon, la victime, ça va être un tel, on ne sait jamais comment elle va réagir. Et parfois, on se trompe aussi. Les cinq premières pages, on se dit, oh, ça va être un tel, la victime. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Le plus, c'est aussi un dessin très soigné, très clair. On peut le voir dans les exemplaires que j'ai amenés. C'est très épuré. L'auteur a le sens du découpage, le sens du rythme, des gros plans.
Oui, ben, en fait, je fais le parallèle peut-être un peu avec JF, dans mesure où, justement, les cases, il y a beaucoup des petites cases, des grosses cases. On crée vraiment un rythme narratif avec tout ça.
Tout à fait. L'auteur est très doué pour créer vraiment un rythme qui fait que, malgré la répétition, parce que dans chaque tome, c'est Fujimoto se déplace pour délivrer l'Ikigami, et là on suit le personnage qui va mourir. Malgré cela, ça donne quand même une originalité à cause du traitement visuel, du traitement donc graphique, du traitement narratif. Il y a une très forte tension dramatique, ça c'est indéniable, mais il y a des petits moins.
Rien n'est parfait.
Rien n'est parfait. Le côté, bon, un peu répétitif, comme je disais, la lenteur de l'information à venir, d'où vient l'Ikigami, qui l'a créé, pourquoi, on apprend seulement vers le 5e-6e tome que l'Ikigami a été créé par un pays extérieur au Japon. Donc, il reste encore des petites affaires qui me turlupinent. Moi, j'ai beaucoup de questions, des questions, et j'ai fait des pronostics de pourquoi. Le personnage de Fujimoto est relativement passif, même si il évolue au fur et à mesure des tomes.
Il évolue lentement.
Il évolue très très lentement, ce qui se comprend aussi parce que quand on a été élevé dans un univers aussi, strict, avec une façon de penser si jamais, il dit « Oh, je doute un petit peu de la loi de l'ex-prospérité », il pourrait très bien se faire soit rééduquer ou alors se faire carrément injecter la capsule puis mourir. Donc c'est vraiment intéressant. Il reste encore 2 tomes à paraître. Pour l'instant, il y en a 8. Il devrait y en avoir 10 en tout. Le dernier chapitre est paru au Japon dernièrement. Et c'est l'avantage aussi, c'est que c'est une série courte. Donc il ne pourra pas y avoir de rallonge. On ne pourra pas non plus s'ennuyer.
Oui, et j'aime bien en fait savoir qu'il y a une fin. Quand je commence la série, je ne sais pas, ça voit l'objectif, ça permet de budgéter aussi.
Moi, je suis d'accord. Quand c'est des séries qui font 42 tomes puis que ce n'est pas encore fini, méfiance.
Et c'est une série qui a eu quand même pas mal de récompenses. Je parlais de popularité en début d'émission. Je veux dire, il y a eu des prix, il y a un film qui est en travail.
Il y a eu un film qui est sorti en 2008, sorti, okay. Basé sur les 2 premiers tomes. C'est beaucoup plus sombre que le manga, qui laisse un petit de latitude, un petit peu moins glauque. On sent beaucoup l'influence de Blade Runner chez l'auteur. Il y a eu des prix spécial BD des Utopiales 2009, le Grand Prix de l'Imaginaire 2010, prix du meilleur seinen au Japon, Expo Awards 2010. Il y a eu énormément de prix. Et je dirais le film est très intéressant également. Moi, je l'ai acheté en France. Mais on peut se le procurer sur des sites américains. Il faut absolument le regarder en japonais sous-titré, surtout pas en doublage ni quoi que ce soit. Je dirais que c'est une expérience visuelle intéressante à la fois pour le roman et pour le film. Franchement, il faut l'essayer.
Et la série elle-même, on la trouve quand même assez facilement?
On la trouve très facilement en librairie, ça se commande très facilement, c'est aux éditions Kazé, ça fait que vous allez chez votre libraire, vous le demandez, ça se commande vraiment très très facilement.
Alors, je rappelle le nom, c'est Ikigami. Le premier tome, c'est Préavis de mort. C'est une série de Motoro Masé. C'est un auteur d'ailleurs assez important au Japon.
Qui est devenu très important
avec cette série-là.
Alors,
à découvrir, pour se lancer, pour s'imprégner de cet univers des mangas. Alors, Pascal Roux, merci beaucoup.
Merci Raymond.
Et on se dit à bientôt. Ah ben voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine cette deuxième édition de La Vie en BD. On va se retrouver, bien entendu, la semaine prochaine, vendredi prochain, toujours à partir de 17h30. Une grosse émission, on a toujours des grosses émissions, marquées notamment la semaine prochaine. François Miville-Deschênes va être avec nous pour parler de Reconquête. Et on aura notamment aussi la chronique de Thomas-Louis Côté. Alors ben soyez là, donc vendredi prochain, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Pascal Roux, merci beaucoup pour la chronique également. Dans quelques instants, c'est Jean-Sébastien Grondin qui va vous accompagner dans 100% Dynamite.